Merci de tourner en Agée. Nous sommes dans le livre d'Agée. Agée qui est donc juste trois livres avant la fin de l'Ancien Testament. Ce mercredi, d'ailleurs, nous commencerons le livre qu'on appelle souvent l'Apocalypse de l'Ancien Testament, Zacharie. Père, je te remercie pour ce merveilleux livre d'Agée. Cette prophétie qui est tellement parlant, personnelle. Et Père, nous prions que tu nous parles encore. Te remercions pour ce qui a été dit et partagé mercredi et nous revenons pour voir à nouveau ces choses. Nous prions donc que tu nous donnes encore une onction de ton Saint-Esprit pour que, Seigneur, nous puissions écouter ce que veut dire ton esprit à nous, à nos cœurs, pour que nous prenions ces choses et que nous les appliquions dans nos vies. C'est tellement important de se réunir, étudier ta parole, et nous sommes venus pour le faire. Seigneur, nous te demandons donc de faire fructifier ta parole dans nos vies. Et nous savons que tu es celui qui achève toujours tout ce qu'il entreprend. Tu vas aller jusqu'au bout de tous tes projets parce que tu es ce Dieu éternel et éternellement béni. Seigneur, nous te demandons donc à nouveau de nous remplir et de nous instruire. Te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le livre d'Agée est certes parmi les plus petits dans l'Ancien Testament, il n'y a que deux chapitres. Mais c'est quand même un de ces livres qui parle énormément. Au fil du temps, dans mon cheminement avec Christ, c'est un de ces livres qui m'a parlé peut-être le plus, parmi d'autres bien sûr, mais parce qu'il y a un côté si personnel dans ces pages. Surtout lorsque nous voyons le contexte. C'est là justement où nous pouvons voir ces bijoux et ces choses si personnelles. C'est vraiment un livre très, très spirituel. C'est un livre prophétique qui parle des choses même à venir, qui sont toujours à venir, des choses que nous attendons avec hâte, avec la venue de Christ sur terre. Et puis, c'est bien sûr un livre messianique qui annonce la première venue de Jésus, qui annonce des choses donc à venir. C'est un livre messianique. C'est aussi un livre très encourageant. Il y a des moments dans ce petit livre qui est composé autour de quatre prophéties. Il y a des promesses tellement important. Et nous allons concentrer sur quatre promesses dans ce livre. Quatre promesses qui sont très parlantes, bien sûr pour eux, mais pour nous. Mais pour bien comprendre le contexte, à part de venir bien sûr donc les mercredis pour voir tout ça dans tous les détails, je vous exhorte vraiment à lire à la maison ou relire, reviser les livres d'Esdras et de Néhémie pour avoir un petit peu ce contexte historique en tête. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de regarder ces quatre promesses parce que ces quatre promesses que je vais relever sont très personnels. C'est entre l'Éternel et son peuple. Mais des choses qui doivent aussi nous parler, les enfants de Dieu aujourd'hui. Promesses de sa présence, des promesses sur son Saint-Esprit, sur les bénédictions et enfin, même sur l'élection. Mais tout d'abord, regardons la promesse sur sa présence, la présence de Dieu pour ceux qui lui obéissent. Et là, nous avons le verset 13 de chapitre 1, où nous lisons « Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, Je suis avec vous, dit l'Éternel. Il est dit deux fois dans deux chapitres, dans deux prophéties différentes. Mais il le dit. Je suis avec vous. C'est tellement important. Mais surtout pour eux. Et pourquoi? Ben, revisons juste un petit peu pourquoi. D'abord, c'est parce que les difficultés que ces gens-là rencontraient de façon quotidienne, ben, je vous dis, sont des choses qui sont capables, tellement puissants, qu'ils peuvent arrêter vraiment des gens très forts et très mûrs dans leur foi. Comme quoi, par exemple, bah, juste le fait qu'il vient de s'installer dans un pays qui a été laissé en ruine pendant 70 ans. Même si on laisse quelque chose pendant quelques années, ça commence à se dégrader. Je pense justement à cet appartement abandonné juste en face de notre maison où il y avait avant des petites herbes qui poussaient. Avec le fil des années, ce sont maintenant des arbres carrément qui poussent partout sur et autour de cet appartement délabré. Mais 70 ans, il y a bien plus que les arbres qui commencent à pousser. Et la terre, le pays a été laissé comme ça pendant tout ce moment. Il réinstalle. Deuxième chose, selon le livre de Néhémie, nous rendons compte qu'ils n'avaient aucune muraille de protection. Et ça, c'est très grave de leur jour. Aucune muraille, c'est-à-dire que le peuple peut être attaqué par les brigands comme par les armées. Il n'y a aucune protection comme par des bêtes sauvages. Il n'y a rien pour arrêter tout genre d'attaque contre eux. Et ils vivaient comme ça. Et puis, il y a encore un autre danger. Et c'est peut-être le danger le plus sinistre. Il y avait des râleurs. Oui, des râleurs qui n'arrêtaient pas à tout comparer au passé ou d'autres choses. Et c'est ça qui ralentit le travail et qui atteint même à l'arrêter. Et puis, on peut même ajouter un autre problème, obstacle. Il y avait dans le pays des gens qui résidaient ce pays, qui étaient aussi des anciens déportés. En fait, les Assyriens les a déportés et les a forcés à vivre dans le pays. Des gens qui venaient de partout, des gens qui deviendraient plus tard les Samaritains. Ces gens, au début, n'avaient aucune envie de vivre là-bas, mais il fallait. Et puis, avec le temps, ils s'habituent. Mais ils n'avaient surtout pas envie de voir tout un nouveau peuple vient s'installer. Alors, c'est eux qui posent beaucoup de problèmes, qui vont jusqu'à écrire des mensonges sur les Israélites aux oreilles du roi pour arrêter le mouvement. Alors, voilà pourquoi ils avaient besoin justement d'entendre cela. En fait, il faut dire, s'ils n'avaient pas un appel très clair de l'Éternel de revenir, s'il n'y avait pas ça, ben, ils auraient dû rentrer en Babylone et gagner beaucoup d'argent. Mais, ils savaient par contre qu'il fallait continuer. Et ils se sont laissés, malgré tout, laisser influencer par les obstacles plus que la parole de Dieu. Et voilà le problème dans lequel ils se trouvent. Influencer plus par les obstacles que la parole. Ah oui, ils ne voulaient pas tout arrêter. Ils pensaient certainement, oh, ces choses-là, les choses de Dieu, on peut s'arranger plus tard. C'est un peu difficile en ce moment. en ce moment. Donc, je vais plus tard en parler. Je vais travailler plus tard. Je laisse ça à côté. Et de toute façon, il faut que je m'occupe de moi. Et voilà la mentalité qui régnait. Je m'occupe de moi en attendant qu'il soit plus facile de m'occuper de Dieu. Et il y a des moments où, dans la lassitude, dans la défaite, où on a besoin d'un frère ou une sœur, quelqu'un comme âgé, qui peut venir nous exhorter, nous encourager de reprendre le travail, de sortir de cela. Justement, je me rappelle une fois, quand j'étais assez jeune dans le ministère, je suis arrivé un petit peu dans un moment comme ça, où tout est devenu un peu routinier, c'était toujours la même chose, et j'avais du mal à vraiment sortir de ça. Et un frère, donc le pasteur Craig, qui va venir dans quelques semaines justement, il était là pour m'encourager et m'exhorter. Et c'était juste ce qu'il me fallait pour sortir de cette mentalité. Pour ces gens-là, ils avaient besoin de ça aussi. Et heureusement, quand ils ont entendu la parole, à leur crédit, ils le mettaient directement en pratique. Ils sortent de la bouche de la prophète et le mettent en pratique. Et c'est ça, justement, qui a fait la différence. Et voilà pourquoi Dieu parle. Dieu parle pour que nous le mettions en pratique, pour que nous soyons comme l'homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, parce que nous avons entendu la parole et puis nous l'appliquions dans notre vie. C'est le dessein de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est ce que ces gens faisaient. Et dès qu'ils le mettent en pratique, qu'ils se répandent, Dieu leur donne cette promesse. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Peut-être vous avez eu tous ces obstacles autrefois. Et vous l'avez toujours de toute façon. Mais Dieu avec vous, avec eux. Justement, c'est une phrase qui est répétée dans la Bible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est tellement important. Si Dieu répète quelque chose, c'est toujours parce qu'il veut que nous la prenions à cœur. Et s'il le dit au travers de certains siècles, c'est pour que nous ne l'oublions jamais. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu, il peut renverser tous les mauvais effets d'une vie mal gérée. Et voilà ce qu'il était en train de faire pour Israël à ce moment. Dieu, il est une muraille, il est une protection sûre. Il est leur meilleure défense. Et quoi qu'ils le disent, Dieu est toujours plus fort que les râleurs et beaucoup plus encourageant. Alors, ne laissez pas ces choses vous dominer. Ne laissez pas ces choses vous influencer vers une vie médiocre de désobéissance. C'est pas ça ce que Dieu veut pour vous. Rappelez-vous, il est avec vous. Si Dieu est pour vous, qui serait contre vous? Et ça, c'est la première promesse. La deuxième, c'est la promesse de son Saint-Esprit, de son Esprit, pour ceux qui trouvent leur joie en lui. Et ça, nous l'avons en chapitre 2, verset 5. Il dit, c'est l'Éternel qui parle, il dit, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai fait avec vous. Quand vous sortiez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Mon esprit au milieu de vous, ne craignez pas. Les choses vont bien ensemble. Mais où étaient-ils ? Ils étaient dans la crainte. En fait, le contexte de cette deuxième prophétie, c'est après une longue période de silence, Dieu, il répond à des gens qui ne pensaient pas que le nouveau temple était quelque chose, qu'ils regardaient toujours en arrière en louant des mémoires du passé. Un péché qui les a volé leur joie d'aujourd'hui. La joie volée dans le piège du mémoire. Il faut dire que ces gens-là, ils vivaient des moments splendides, des moments très très forts. Prenons juste un petit recul. En fait, à l'époque, dans le moment où ils vivaient, il y avait des prophéties qui s'accomplissaient à droite et à gauche. C'était leur actualité de tous les jours. Ce n'est pas comme ils pouvaient dire que Dieu ne fait rien. Deuxièmement, le roi, comme les prophètes, comme le peuple soulevé pour construire un nouveau temple. Eh bien, il faut dire, ils étaient en train de construire le deuxième temple de l'Éternel. Qu'est-ce qui est de plus magnifique que ça? Or, pour certains, ils ont été volés de leur joie à cause de leur mémoire. Ils se rappelaient sans cesse d'un temple, mais sans penser certainement aux détails de la réalité avant la déportation. Parce que nous savons grâce aux Écritures que même si le temple avant la déportation était grand, tout l'or a été déjà volé par les Égyptiens, par les Assyriens, par tous les autres ennemis de Dieu depuis longtemps. Il n'y en avait pas. Enfin, peut-être il y avait certaines choses, mais ce n'était pas la chose grandiose que c'était avant. Et grâce au livre d'Ézéchiel et aussi en deux chroniques, nous savons qu'il y avait même des idoles dans le parvis du temple. Oh, certainement, ils ont oublié ça aussi. Ou bien, tout simplement, peut-être, ils ont oublié que les bons vieux jours ne sont jamais aussi bons qu'ils restent dans la mémoire. Parce qu'ils sont protégés par nos envies qu'ils soient toujours meilleurs. Le temps passe. Et c'est vrai, le temps passe. Mais est-ce que ces gens qui se sont accrochés à ces mémoires, est-ce que ça leur a donné plus de joie pour faire face à leur quotidien? Tout le contraire. Le plus qu'ils s'accrochent à ces mémoires anciens, le plus qu'ils étaient sans doute amers. La joie ne revient car ils sont tombés dans ce piège. Mais l'invitation vient maintenant de voir autrement. Et Dieu, il donne son esprit pour que ça se fait. Pour ces gens qui aiment se souvenir, tu es merveilleux. Il leur donne un petit exercice de mémoire. Un exercice de mémoire qui leur conduit très loin dans le passé, en Égypte, où ils ont été libérés la première fois. Parce qu'en sortant d'Égypte, ils avaient aussi un peu de reconstruction à faire. À une époque où ils sortaient des ex-esclaves pour qu'ils deviennent maintenant une nation consacrée à Dieu. Il fallait donc que Dieu les dirige dans le désert, qu'il les instruise, qu'il les forme. Il fallait enlever cet esprit du monde, de l'esclavage, pour être revêtu d'un nouvel esprit, l'esprit donc de vie, l'esprit qui vient d'en haut. Et pour ces gens qui habitaient dans le pays maintenant en âgés, il fallait qu'il aussi enlève cet esprit du monde, cet esprit de Babylone, cet esprit de captivité. Parce que maintenant, ils étaient des hommes et des femmes libres pour servir Dieu. Ils avaient besoin, donc, comme leurs ancêtres, d'être renouvelés. Et d'ailleurs, regardons un petit peu l'histoire dans le Nouveau Testament. Comme la Pâque vient d'abord, et puis la Pentecôte, la crucifixion et la résurrection de Christ avant que l'Esprit tombe et l'Église est née. De la même manière, nous voyons quelque chose qui aussi se reproduit dans la vie de ceux qui suivent Dieu. C'est que très souvent, après les temps de souffrance, temps de travail, temps d'angoisse, Dieu il élargit nos capacités d'être remplis d'encore plus de lui et d'être encore plus efficaces pour le royaume. Il utilise ces choses pour le bien, comme on ne l'a jamais pu penser avant. De toute façon, c'est par l'Esprit Saint que nous rendons un culte agréable à Dieu. Et ça, c'est pourquoi, justement, dans l'Ancien Testament, nous lisons souvent la petite phrase « Un tel fut rempli du Saint-Esprit et il a fait des grandes choses. » Qu'il soit Samson, qu'il soit David, c'était toujours comme ça. Ils sont remplis du Saint-Esprit et puis ils fassent quelque chose. Tout comme les disciples devaient attendre cette puissance qui vient d'en haut afin de devenir les témoins à Jérusalem, à Samarie et puis aux extrémités de la terre. Pourquoi? Ben c'est aussi dans la petite phrase que nous lisons dans les évangiles où nous lisons que Jésus ne se confiait pas aux hommes parce qu'il savait ce qui était dans les hommes. Alors, il leur a envoyé son Saint-Esprit pour qu'il les change et pour qu'il les utilise. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, laissez-lui vous transformer pour vous guider par son Saint-Esprit qui est en vous. Et puis, la troisième promesse, c'est une promesse de bénédiction pour ceux qui se répandent. Regardez dans ce même deuxième chapitre, mais verset 19 cette fois-ci, où nous lisons, « Y avait-il encore de la semence dans les greniers, même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier ?» n'ont rien rapporté, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. » En fait, avant qu'ils ne se remettent au travail, petit à petit, Dieu, il les enlève, ces bénédictions. Ils avaient encore plus de factures que de ressources à la fin du mois. Et ça continuait, et c'est ça, chapitre 1, jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus vraiment de ressources. Mais beaucoup de factures. Et Dieu faisait ça dans leur vie parce qu'il voulait qu'ils reviennent à lui. C'est ça ce qui était en train de se passer en Agé chapitre 1. Mais ils sont revenus. Ils ont entendu l'appel, ils sont revenus. Pourtant, il semble que, et c'est ce que le prophète répète que ces choses sont toujours là. Ils sont revenus, mais Dieu, il préfère leur laisser se rappeler de ce qui s'est passé. Et même, il leur raconte ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons souvent dans les psaumes, par exemple. Il y a un certain nombre de psaumes où Dieu, il répète tout ce que le peuple a fait en désobéissance. Et pourquoi? Pour qu'ils apprennent la leçon de leurs erreurs. En fait, regardez avec moi en 1 Corinthiens 10, verset 6. Parce qu'il y a quelque chose de très important pour nous là-dedans. Paul, il parle de Moïse dans le désert et leur aliment spirituel, les temps qu'ils ont vécu. Mais commençons à verset 5, ils disent, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, verset 6 de chapitre 10, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Vous voyez, les choses qui sont passées dans la Bible, les erreurs et tout, c'est pour que nous prenions conscience de ces choses. En fait, c'est pour que nous fassions la chose qu'ils nous ont dit de ne pas faire aujourd'hui dans les cours d'histoire, c'est d'apprendre des leçons de l'histoire et de lire l'histoire pour que nous apprenions la leçon. Parce que apprendre l'histoire, c'est ne pas oublier les erreurs du passé. C'est un nouveau départ maintenant pour eux. Et Dieu les a rendus sages. Il veut qu'ils soient sages. D'ailleurs, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et il vous a donné toute la parole de Dieu, l'Ancien comme le Nouveau Testament, pour vous rendre sages, pour que vous appreniez ces leçons. Alors, ça fait partie de ces bénédictions, la sagesse. Comme il est dit dans le livre des Proverbes, qu'il soit comme un paru d'un collier d'or autour de votre cou. C'est une bénédiction que la sagesse. C'est pour cela que nous sommes exhortés en Jacques chapitre 1, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu. Mais qu'il ne demande pas en doutant, que celui-là ne pense pas qu'il reçoit quelque chose de la part de Dieu, parce qu'il est instable dans toutes ses voies. Non, il est en train de les bénir par la sagesse, de façon à ce qu'ils sachent d'où ça vient. Qu'ils sachent que les bénédictions, ça vient de l'Éternel. Oui, c'est vrai, il faut qu'ils partent et qu'ils labourent la terre. Oui, il faut qu'ils sèment des graines. Oui, il faut qu'ils arrosent la terre. Il faut aussi qu'ils cultivent le sol. Il faut qu'ils fassent tout ça. Mais n'oubliez pas que c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui donne tout ce qui est important pour qu'ils vivent et continuent. Il est toujours fidèle de nous purifier et de nous renouveler. En fait, nous sommes toujours encouragés de revenir vers lui parce qu'il nous connaît. Il nous connaît parfaitement. Il sait quand nous faisons des choses et nous allons nous trébucher sur je ne sais pas quoi, mais il le sait. Il n'est pas surpris par notre chair, mais il demande que nous confessions nos péchés. Il faut se repentir, se détourner du péché. Et vous savez, Dieu, il ne chassera jamais de sa présence un pécheur repenti. Si c'est vous aujourd'hui, sachez, s'il vous appelle et il vous appelle, il ne vous chasse jamais. Justement, un des grands prophètes, le prophète Jérémie, a découvert une chose en voyant la destruction qui venait de se passer par les Babyloniens, en voyant sa ville déserte, en voyant tout le mal qu'a fait le péché et tout. Et il dit en Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23, qu'il y a une chose, qui lui renseigne. Il y a une chose qui se répétait dans son cœur, qui le gardait. C'est que, en Lamentations, chapitre 3, verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Si vous vous trouvez dans une position où vous savez que c'est le moment de revenir, revenez, parce que ces bontés ne sont pas épuisées, pas du tout. Mais s'il vous appelle, c'est parce qu'il veut vous le montrer. Voyez, même avant que nous avons ouvert nos yeux, ses bontés se sont renouvelées pour nous, aujourd'hui même, pour vous, pour moi. Il est toujours fidèle. Est-ce que ça, c'est une promesse pour vous aujourd'hui? Et puis, il y a la rassurance de son élection. Pour ceux qui sont découragés, pour retourner en âgé, c'est en fait le dernier verset que nous lisons, verset 23. « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, car je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. » Et voilà notre promesse. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Zorobabel était un grand leader. C'est quelqu'un donc qui a fait pas mal de choses en Israël. C'est lui le chef du peuple. Comment est-ce qu'il a besoin d'un tel mot? À cause de toutes les circonstances que nous avons déjà évoquées, c'est pour ça. Mais c'est justement parce qu'il est le chef que toutes ces choses pèsent 10 fois plus sur lui qu'aux autres. Ne pensez pas qu'il soit à l'abri de ces choses. Non, les découragements intensifient plus pour ceux qui prennent un rôle de leadership dans l'Église. C'est un petit peu comme on fait avec une loupe et le soleil. Hein, si pour les anciens garçons, si vous avez jamais utilisé une petite loupe pour brûler les fourmis quand vous étiez petit, vous savez de quoi je parle. Mais donc c'est un peu ça, cette intensification. Et voilà pourquoi Zorobabel avait besoin de ça. Les circonstances pourraient bien lui dire tout le contraire, mais ajoutant à ceci une chose importante qui s'applique à tout le monde, c'est que le diable cherche toujours à détruire l'œuvre de Dieu par le découragement. C'est une de ses meilleures stratégies. Parce qu'il n'y a rien pour l'adversaire de notre âme qu'un serviteur, qu'un chrétien, qu'un ministère s'arrête par le découragement. Pourquoi? Parce qu'ainsi, il peut arrêter la bénédiction avant qu'elle commence à couler. C'est comme un robinet, il arrête aux sources. Parce que le serviteur et le chrétien est arrêté par le découragement, même avant qu'il ne commence. Dû toute la puissance de l'assurance, c'est que nous sommes choisis, que Dieu est avec nous. Il n'a pas fait d'erreur, il nous connaît. Mais aussi dû l'importance de l'encouragement. voir l'exhortation dans la vie de l'Église. Sachant que Dieu vous a choisi, qu'il vous aime, a une puissance pour vous aider à vous relever, même quand c'est difficile. Et justement, il y a une puissance lorsque l'Église s'engage à encourager les uns les autres, pas de façon superficielle, bien sûr, mais de façon réelle. Ça nous garde, justement, de perdre les gens ou de tomber dans le désespoir. Et voilà peut-être un défi pour ceux parmi vous qui sont peut-être plus mûrs dans la foi. Cherchez à encourager. Demandez au Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux encourager dans la foi cette semaine? Comme il est dit en Hébreux, chapitre 3, exhortez-vous les uns les autres aujourd'hui, parce que on n'a que aujourd'hui, voyez. Qui sait pour demain? Mais nous avons aujourd'hui. En conclusion, nous avons vu la promesse de sa présence. En réalité, il n'y a rien de mieux. Oui, peut-être, il y aura toujours les obstacles. Mais Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Sa présence. Et puis, nous avons vu que nous avons son esprit. C'est par son esprit que les choses vont se faire, pas par la chair. Et puis, il y a la bénédiction pour ceux qui reviennent. Mais sachez que d'où viennent ces bénédictions? Ça vient de lui. Ne vous trompez pas. Même si le Seigneur vous demande de faire quelque chose, rendez-vous compte d'où vient toute bénédiction, toute bonne chose. Et puis, n'oubliez pas à qui vous appartenez, qui vous a choisi. Vous êtes choisi à Dieu. Et dans ces quatre promesses, peut-être vous avez vu le fil conducteur. C'est Dieu avec nous. Dieu avec nous par sa présence. Dieu en nous par son esprit. Dieu aussi avec nous par ses bénédictions. Et bien sûr, il est véritablement avec nous parce qu'il nous a choisis. Dieu, il est la réponse de tous nos soucis. Il est la réponse de tous nos problèmes, de tous nos besoins. Ça se trouve en lui. C'est pour ça qu'il faut enlever les yeux des problèmes pour regarder vers celui qui peut quelque chose. Parce qu'il est Dieu avec nous. Il nous a envoyé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour que nous vivions éternellement. Dieu est en nous parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Dieu est avec nous, alors regardez vers lui. Vivez donc ses promesses. Alors je vais vous demander, peut-être vous vous trouvez dans cette circonstance où vous ressentez que le Seigneur vous rappelle. Ne résistez pas à cela. Aujourd'hui, c'est le jour d'ouvrir votre cœur. Ou peut-être, vous réalisez, peut-être ça fait un moment où je n'ai pas encouragé les autres. Ou peut-être vous ressentez un petit peu à sec parce que vous travaillez peut-être dans la chair. Dans tous ces moments, je vous exhorte pour la même chose, de revenir à lui. Je vais justement vous donner un petit moment de silence pour que vous ayez le temps de rebondir, de répondre à cet appel. Dans le silence, chacun avec ses yeux fermés. Si le Seigneur vous a parlé aujourd'hui, je vous exhorte vivement à répondre, à venir dans vos mots à vous, et de répondre à l'appel.